Doo-wop a doo-wop shoo, bidoo-be doo-wop a doo-wop a doo-wop shoo, bidoo-be doo-wop.
Bonjour à tous et bienvenue dans SMS. Je m'appelle Kylian, j'ai 15 ans et aujourd'hui je vais vous parler de Star Wars. Je vais vous expliquer en détail pourquoi Star Wars 7 trahit la saga. Moi, je suis moi-même un grand fan de Star Wars et j'ai vu tous les films du premier jusqu'au dernier. Avant toute chose, 4e, 5e et 6e films ont été réalisés avant les 1, 2, 3. Premièrement, quand j'ai appris que la saga avait été rachetée par Disney, j'étais moi-même très impatient de savoir ce qu'ils allaient nous proposer. Et puis, Star Wars 7, le réveil de la force, est sorti en salle. Autant ne rien vous cacher, je reste convaincu que si ce film a tant divisé les fans, ce n'est clairement pas pour rien. Je vais donc essayer de vous expliquer en détail en quoi, selon moi, Star Wars 7 est un mauvais Star Wars. Nous allons commencer tout de suite par l'un des plus gros problèmes de ce film. Le traitement de la Force. S'il y a bien un élément qui est une preuve indiscutable que Star Wars, le réveil de la Force, ne respecte absolument pas l'univers de la saga d'origine, c'est bien le traitement de la Force, et plus particulièrement à travers le personnage de Rey. Le problème que j'ai avec ce personnage, c'est qu'il montre à lui tout seul que l'équipe en charge de ce film n'a absolument rien compris à l'univers de Star Wars. Je m'explique. Dans le réveil de la Force, Rey vient d'une planète désertique, paumée, comme Luke, à tel point que pour elle, la Force et les Jedi ne sont que des légendes. Et c'est seulement après avoir rencontré Han Solo qu'elle apprendra que tout ceci est bien réel. Quelques temps après cette révélation, on découvre que Rey semble parfaitement bien maîtriser la Force, comme si elle s'en était déjà servie toute sa vie. Je pense sincèrement que Disney n'a toujours pas compris ce qu'était la Force dans l'univers de Star Wars. Car dans ce film, ils s'en servent comme un super pouvoir. La Force n'est pas un super pouvoir, ce n'est pas un don de la nature que tu as ou que tu n'as pas. La Force est partout et en chacun de nous, et pourtant il ne suffit pas d'avoir conscience de son existence pour savoir la maîtriser. Et c'est en ça que le traitement de la Force dans ce film est incohérent avec le reste de la saga. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus, rappelez-vous que dans les films 4, 5 et 6, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier, mais Luke dans le 4e film ne maîtrise ni la Force ni l'art du combat au sabre. Il faudra attendre l'épisode 5 pour le voir tenter d'utiliser la télékinésie Jedi. Maintenant, retournons du côté de Rey pour voir comment elle se débrouille dans le tout premier film de la trilogie de Disney. Visiblement, c'est trop facile pour elle. Genre, c'est limite humiliant pour ce pauvre Luke Skywalker. Souvenez-vous, dans le 5e volet, Luke part s'entraîner auprès de Maître Yoda. Et c'est à l'épisode 6, et seulement à l'épisode 6, que Luke pourra se servir de la Force pour influencer les esprits. Du côté de Rey et de l'épisode 7, eh bien, c'est encore une fois l'exact opposé, puisque la toute première action de la Force qu'elle arrivera miraculeusement à maîtriser sera le contrôle des esprits, genre comme ça gratos. Je veux dire, sans déconner là, c'est pas seulement une critique de fan un peu tatillon. D'un côté, on a Luke, qui ne sait rien de la Force dans le 4e volet, puis ira s'entraîner auprès de Yoda dans le 5e volet, pour finalement devenir un Jedi accompli dans le 6e. Et enfin, maîtriser la Force de persuasion dont seuls les Jedi expérimentés en connaissent le secret. Tandis que du côté de Rey, on a, une fois qu'elle a appris l'existence de la Force, elle a juste à se concentrer un petit peu et réussit sans aucun problème à utiliser la Force, le persuasion Jedi, qu'elle n'a jamais appris à maîtriser et que, habituellement, seuls les maîtres Jedi accomplis peuvent prétendre pouvoir contrôler. Ce qui a fait le succès de l'univers Star Wars, c'est le réalisme auquel tenait George Lucas. Alors bien sûr, je vous vois venir, les cerveaux cosmiques qui me diront que ces films sont tout sauf réalistes, parce que c'est de la science-fiction et que d'abord, il n'y a même pas de son dans l'espace. Mais on s'en fout, là n'est pas la question. Ce dont je parle, c'est cet aspect palpable, proche de notre réalité que l'on peut ressentir lors du visionnage de l'un de ces films. C'est pour ça que les dialogues des films 4, 5, 6 sont si crus, si naturels. C'est pour ça que les vaisseaux sont gris et crasseux. Les films Star Wars sont pensés pour être une fenêtre sur une autre réalité qui n'est pas la nôtre mais qui y ressemble et que l'on est en capacité de comprendre. Dans notre réalité, si un individu n'a aucune connaissance en mathématiques, il est absolument impossible pour lui de résoudre une équation. Eh bien, dans l'univers de Star Wars, c'est pareil. Rey ne peut techniquement pas maîtriser l'une des techniques les plus avancées des Jedi, alors qu'elle n'a jamais reçu un quelconque entraînement auparavant. C'est pour cette raison que si vous tentez de m'expliquer pourquoi vous avez malgré tout aimé ce film, ce que vous avez parfaitement le droit d'ailleurs, il n'en demeure pas moins que cet élément trahit l'œuvre d'origine créée par Lucas. Quand on décide de créer une suite à la plus grosse saga de ces 50 dernières années, respecter la cohérence de l'univers me semble être la moindre des choses. On enchaîne tout de suite avec le deuxième argument, ce que j'appelle la flemmardise de la nostalgie, le scénario. Bon, évacuons tout de suite l'un des plus gros reproches que l'on fait au Réveil de la Force. Ce film est une totale repompée du quatrième volet. Alors oui, certains me diront que les 1, 2, 3 ont aussi copié sur les 4, 5, 6. Alors déjà, non. Et ensuite, si vous sortez cet argument, sachez que vous êtes d'une extrême mauvaise foi. Concernant le 7, ce n'est pas seulement quelques éléments similaires. Là, ils ont repris la même structure narrative que l'épisode 4. BB-8 remplace R2-D2, le Premier Ordre remplace l'Empire, la Résistance remplace l'Alliance Rebelle, Jakku remplace Tatooine, Rey remplace Luke, etc. Pour les deux du fond qui ne me croiraient pas, je vais encore une fois vous expliquer. Début du film, des Stormtroopers débarquent pour buter tout le monde et faire place à un grand méchant noir venu ici pour récupérer des plans secrets. Plans secrets qui seront ensuite cachés dans un droïde par un résistant. Droïde qui va aller par la suite sur une planète désertique et qui se fera capturer puis récupérer par le héros du film. Héros qui est défini par sa solitude et sa soif d'aventure. C'est au moment où les ennemis viennent sur cette planète attaquer le village du héros que celui-ci s'enfuit et part à l'aventure à bord du Faucon Millenium. Il rencontrera un héros d'une guerre qui servira de mentor pour notre héros et qui l'amènera dans un bar où il récupérera le sabre d'Anakin Skywalker, de Luke Skywalker dans le 7. Pendant ce temps-là, les méchants qui sont sur leur base en forme de planète géante détruisent d'autres planètes avec un laser. Les héros se rendent sur cette base, le mentor est tué par le méchant en noir alors qu'ils étaient proches par le passé, le film se termine avec une bataille dans l'espace où des X-Wing détruiront la base ennemie. On est d'accord, là, c'est une flemmardise extrême. Je vais tout de suite enchaîner avec la flemmardise de la nostalgie encore une fois, mais cette fois-ci sur l'esthétique. Alors, il y a les mêmes environnements, désert, forêt, espace enneigé, c'est les mêmes environnements que le 4. En parlant du 7, 8 et 9, vous avez aimé les X-Wing et les chasseurs T, vous voyez les petits vaisseaux là, des méchants. Ben, ce sont les mêmes, voilà, c'est les mêmes. Niveau de feignantise, on dirait moi, quand je recopiais toute une page Wikipédia pour un DM au lycée, sérieusement quoi. Je le rappelle qu'il s'est passé 30 ans entre le 4, 5, 6 et le 7, 8, 9 et il n'y a eu aucune évolution technologique, c'est les mêmes vaisseaux. Alors oui, j'exagère un petit peu, les X-Wing sont refaits légèrement et les chasseurs T repeints en rouge et noir, mais vous n'allez pas me faire croire que 30 ans d'évolution se résume à un coup de peinture. Du coup, quand on est Disney, on se fait pas chier, on recycle tout. Si tout le monde appliquait le recyclage façon Disney, la Terre aurait été sauvée depuis longtemps. Même les Stormtroopers auraient eu un léger relooking. Mais merde, 30 ans ont passé et ça n'a pas changé. On a un groupe de méchants similaire avec un représentant similaire, un groupe de résistants similaire avec un représentant similaire, des vaisseaux similaires et enfin une armée similaire. Et tout ça, je le rappelle, est censé se dérouler 30 ans après le 6. Il faudra attendre l'épisode 9 pour voir de nouveaux Stormtroopers. C'était franchement pas compliqué. La suite, on enchaîne avec Kylo Ren, un méchant pas si méchant. Alors pour moi, Kylo Ren, c'est le personnage le plus inoffensif et le plus ridicule de toute la saga. Il pique des crises quand il est pas content, et il va même jusqu'à s'auto-infliger de la douleur pour essayer de s'énerver le plus possible quand il combat Finn et Rey. Pendant ce combat, il a l'occasion de tuer Finn, mais il lui rafle gentiment le dos et le laisse par terre. La saga nous a appris que quand une lame laser entre les mains et que tu es méchant, tu t'en sers pour trancher, découper ou transpercer ton adversaire. Non, là, il se contente juste de faire une petite pirouette en lui éraflant gentiment le dos. Triste pour une saga où on se bat avec des sabres laser et qui a le mot « guerre » dans son nom. Triste pour une saga qui a l'un des plus grands méchants de la pop culture, Dark Vador. Alors oui, le sabre de Kylo Ren a une certaine utilité. Les deux petits sabres laser situés à son extrémité sont censés représenter la garde d'une épée. Alors excusez-moi, mais la garde d'une épée, ça se situe au-dessus de la main pour protéger. Enfin. Du coup, il n'y a pas vraiment de vrais méchants dans la saga. Alors oui, on a Snoke, mais avec Snoke qui meurt, qui se fait littéralement couper en deux dans le 8, on a clairement une équipe de bras cassés en termes de méchants. Dans le 9, ils ont fait revenir l'empereur Palpatine. Franchement, Disney, c'est vraiment les rois du recyclage. Alors, ne parlons même pas de Kylo Ren et de son costume, basique et sans détail qui donne l'impression qu'il a été acheté à la foire fouille. L'univers de Star Wars se veut fonctionnel avant d'être esthétique. Je m'explique, par exemple, le Faucon Millenium, on est d'accord, c'est un vaisseau laid, asymétrique, mais populaire. L'exact inverse de Disney avec le sabre de Kylo Ren qui n'a été pensé que pour son aspect esthétique, pareil pour son masque. Pourquoi Dark Vador porte un masque? Parce qu'il le maintient en vie. Pourquoi Kylo Ren porte un masque? Ben juste parce que c'est stylé, voilà. Je vais donc conclure, merci d'avoir écouté. Mon but ici n'était pas d'imposer mon avis, mais simplement de vous faire comprendre le mien au plus grand nombre. Vous avez le droit d'avoir aimé ce film, évidemment. George Lucas, après avoir visionné le 7e film, a déclaré avoir vendu son enfant à des marchands d'esclaves. Moi, je reste convaincu que quand le créateur de Star Wars renie la suite de sa saga, désormais produite par Disney, ça ne veut rien dire pour autant. Sur ce, merci d'avoir écouté SMS, on se retrouve prochainement sur les ondes de Radio MDM. Ciao!
Do up a do up shoe, fiddle be do up a do up a do up shoe, fiddle be 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 do up a do up shoe, f